Le peuple de la mer. Troisième partie, chapitre 4. À l'été, Petit Pierre éprouva un bonheur qui éclipsa ses joies précédentes, quand on l'envoya jusqu'à Saint-Nazaire durant la grande semaine maritime. Florent avait écrit que son navire, le contre-torpilleur Lansquenet, serait de la fête, et les Bernard avaient consenti à dépêcher Petit Pierre, chargé d'un pâté de bernache, d'une bouteille et d'un tricot neuf. Il partit sur le laissez-les-dire avec Julien Perchet qui allait courir aux régates. Ils étaient sept à bord. Théodore et François Goustan, les constructeurs de Noirmoutier, le père Clémotte, les deux matelots, le patron et Petit Pierre. Il ne se sentait pas de joie et gambadait sur le pont pendant l'appareillage. Le sloop vira la jetée, d'où la mère Bernard cria de toutes ses forces « Et tu l'embrasseras ben pour nous !» Mais Petit Pierre ne voyait déjà plus que la barque qui l'emportait, inclinée sous la brise d'ouest, en charruant vigoureusement la mer transparente. L'atmosphère pesait. Depuis un mois, le soleil des grands étés cuisait la terre comme une poterie. Dans le marais, le sol craquelé s'envolait en poussière et le sel croûtait largement sur les salines. Bonne année pour l'île, dont le sel et la pomme de terre font la richesse. Peu à peu, la chaleur cependant s'amassait en orage. L'horizon s'alourdissait d'une brume pesante où stagnaient, du côté du sud, des nuages d'un noir bleu qui changeaient de forme sans bouger de place. Il ventait petite brise, mais la mer fortement houleuse sentait du mauvais temps. Au grand large, le laissez-les-dire roulait jusqu'à tremper à l'eau sa baume qui remontait d'un coup dans le ciel. Petit Pierre regardait le flèche osciller, si haut qu'il lui fallait se renverser pour le voir. Il écoutait le gémissement des palans et le tumulte des vagues à l'étrave. Il contemplait le torse énorme de Perchet à côté à la barre. Et la force de cette machine, aux mouvements accordés avec ceux de la mer, l'émouvait sans qu'il comprît pourquoi. Les hommes l'appelaient le mousse en rigolant, et pour ne pas lâcher les lignes à maquereau lancées à la traîne, l'envoyaient de temps à autre chercher le litre.
Hé, mousse, passe-nous le kilo.
Petit Pierre la portait avec fierté, et chacun à son tour prenait la hauteur du soleil, en buvant à même le goulot, le cul de la bouteille braqué en l'air comme une lorgnette. Le maquereau donnait. De minute en minute, on sentait aux lignes les secousses du poisson qui s'enferrent. Et quand on levait, les beaux scombres apparaissaient au bout des fils comme des flèches nacrées fendant l'eau claire. Des roses, des verts et des bleus très fins se déplaçaient, se succédaient et chatoyaient sur leur dos. Ils avaient des yeux d'émeraude cerclés d'or et leur ventre était tout en argent. Sur le pont, ils ouvraient trois ou quatre fois leur gueule vorace, tressautaient et agonisaient vite en éteignant leurs yeux et la vie lumineuse de leurs écailles, redevenue des poissons vulgaires d'un bleu lourd zébré de noir. Bientôt, dans la vapeur estivale, Saint-Nazaire se révéla, hérissée, métallique, conquérante, avec ses phares, ses cheminées, ses mâtures, ses chantiers et sa grue gigantesque en forme de T, comme une place forte en armes face aux océans. En opposition, de l'autre côté de l'estuaire limoneux, brillaient des plages, des bois arrondis, la nature paisible, sans blindage de granit, sans bassin creusé à bras d'homme pour emprisonner de la mer. En rade, deux cuirassés pesaient, sombres et informes. Des trois mâts lançaient au ciel leurs silhouettes téméraires. Des vedettes astiquées circulaient en clignotant de leurs cuivres. Des barques croisaient. Et dans le courant, les grosses bouées coniques, empanachées de feux verts ou rouges, accomplissait avec lenteur des demi-tours en se balançant ainsi que des matrones à la baignade. Petit Pierre s'émerveillait. Jamais il n'avait vu de port aussi vaste, ni tant de bateaux de toutes les formes et de toutes les tailles. Des bâtiments charbonneux, larges comme des cathédrales, la mâture écourtée et des ancres de 2 tonnes pendues à l'écubier, des paquebots à étages, sommets de cheminées comme des tours, des longs courriers galeux qui sentent les épices, des bijoux de yacht voilés de soie crème, des barques multicolores, des remorqueurs pansus et des torpilleurs de l'État grisâtres, menus, dont les flammes traînent de la pomme du mât jusqu'au pont. La variété des pavillons, surtout, l'étonna. Il avait bien appris à l'école le nom des peuples partagés sur le globe, mais il n'imaginait rien au-delà de l'herbaudière. Cette fois, il crut voir les nations dans l'étamine superbe au ton violent, et il sentit autour de lui la terre immense et merveilleuse. Des accords de musique soufflaient par bouffées de la ville, parmi des poussières de charbon et des accreurs de houille. De chaleur, le coltard coulait sur les coques. On accosta. Petit Pierre saisit la bourriche qui contenait le pâté de Bernache, la bouteille et le tricot neuf destiné à son frère, et débarqua derrière le père Clémotte. Le vieux l'entraîna par les quais où le soleil tombait d'aplomb. Une gaieté turbulente pétillait dans les auberges. Des lanternes vénitiennes et des drapeaux décoraient les rues où déboulait la foule par bandes, bras dessus, bras dessous. Ils découvrirent le Lansquenet au quai des Pêcheries. Fin de ligne, râleaux, les cheminées trapues, les mâts grêles, il exprimait la force et la légèreté. Une odeur d'huile chaude et de saumure l'enveloppait. Sous les pas des hommes, les tôles sonnaient. Pensive et muette, la foule était massée devant ce fuseau d'acier dans quoi on enferme des hommes pour en massacrer d'autres, et dont les nations s'enorgueillissent, plus il va vite et tue loin. Elle admirait et craignait à la fois. La puissance et la précision de l'engin l'enthousiasmaient, mais au fond de sa chair, une fibre se crispait, parce qu'elle sentait la guerre qui est de la souffrance, de la mort, et elle regardait avec des yeux de condamné. Florent parut, les souliers luisants, le col raide, la vareuse nette. Il rit, embrassa Petit Pierre largement, sans respect humain, au milieu des curieux, parce que c'est bon de retrouver le pays, la mère, le papa, tout ce qui tient si dur au cœur des hommes, dans un gros baiser qui claque sur la joue de son frère. Et puis, on s'en fut prendre le coup de l'arrivée, une bonne bouteille, au café de la marine. Petit Pierre était fier parce qu'on les regardait. Depuis le matin, il vivait une existence éblouissante, et il ne parla que de lui, de sa traversée. « Tu sais, je suis venu à bord du laisser-les-dire. » Florent dut lui arracher des nouvelles du pays et empoigner la bourriche où il fouilla lui-même. Ils déjeunèrent sur un coin de table, à l'auberge, parmi les cris des consommateurs. Près d'eux, 4 jeunes gens pariaient de vider 1 litre d'un trait. Plus loin, des pêcheurs, engagés aux régates, braillaient en se défiant. Une fillette parut sur le seuil, basanée, pieds et tête nus, et joua sur un accordéon « Va, petit mousse !» que la foule reprit en chœur avec un mouvement de houle auquel s'abandonnaient les femmes. Chaque fois que passait la servante, rougeaude, suante et mamelue, les hommes fourrageaient son cotillon en rigolant. Des obscénités fulguraient en éclairs, suivies du tonnerre des rires. La fumée dense masquait le plafond. On marchait dans le vin qui empestait l'atmosphère. Volontiers, Florent s'attarderait avec Clémotte à boire, à jaser. Le vieux avait déboutonné son gilet pour bedonner à l'aise et dénouer la cordelière framboise de son col. Mais, impatient de voir la fête, Petit Pierre réclamait obstinément « On va-t-il pas bientôt s'en aller ?» Une fanfare défila au rythme de Sambre-et-Meuse. Le café se vida et les Bernard emboîtèrent le pas avec la compagnie. Du côté de la mer, le canon retentissait. Des coups de vent chaud apportaient de la poussière. Les drapeaux clapotaient au long des mâts. Une sirène mugit et 100 voix lui répondirent dans la foule. C'était la liesse populaire, la joie physique de brailler, de gesticuler, d'avoir le cerveau trouble et le sang chaud. Il y avait bien, ici et là, des parades officielles faites par des messieurs noirs sur des estrades tricolores où l'on proclamait au son des Marseillaises la force de notre marine, la prospérité du commerce et la gloire de la France. Mais on savait bien que tout cela n'était pas sérieux. Il en fallait, parbleu, de ces histoires pour les journaux, pour les avancements, pour les vanités, et parce qu'il y en a qui aiment jouer à embêter les autres. Seulement, la vraie fête était ailleurs, là où il y avait du vin et des filles, des goulets de baisers à prendre, des litres à lamper, là où les instincts trouvaient leur compte large de plaisir. Les jetées grouillaient de monde. Déjà, les régates couvraient de voiles l'estuaire trouble. La Loire immense roulait vers la mer ses eaux vaseuses avec des remous et du clapotis. Le courant fuyait en emportant les barques et bouillonnait le long des cales. Le bas des quais, enduit de végétation grasse, sentait fortement la marée. Le père Clémotte, abandonné aux amitiés d'un vieux pilote, Florent entraîna Petit Pierre du côté des estacades, où il y avait des joutes pour les marins de la flotte. Une quinzaine d'embarcations de service s'alignent sur deux rangs. Il y en a de petites, à 8 rameurs, et de grandes, à 16. De loin, elles ressemblent à des bêtes blanches et bleues, fournies de pattes à cause des avirons, que les hommes tiennent bordés au ras de l'eau, prêts à partir. À l'arrière, le patron est debout, une main sur la barre. À terre, des gens enflés de supériorité expliquent les choses mystérieuses de la mer. Des vieilles barbes parlent un langage semé de mots inconnus. Tribord, amure, flèche, baumée, lof pour lof. La foule regarde d'un seul œil les barques, souquées de toile, qui se croisent, se coupent, manœuvrent à toutes les allures et, sans rien comprendre à la régate, elle est soulevée d'enthousiasme pour l'audace et la force des hommes. Petit Pierre est immobile et muet près du frère. Ses yeux ne suffisent pas pour tout saisir, parce que, en enfant, il va de détail en détail. Soudain, les canots de la flotte s'enlèvent à un signal et Florent crie de joie. « V'là le tour au frangin !» On voit les avirons ployer et se détendre comme des ressorts. D'un seul rythme bref, la longue arête des dos se courbe et se redresse. Toute la barque est un grand corps qui rampe. À l'arrière, le patron excite les hommes de la voix et se jette en avant à chaque coup de rame. L'effort est un, mécanique. Le bois gémit, les muscles craquent. Il remonte le courant vers un ridicule croiseur à l'éperon en sabots. C'est un de ces navires, démodés avant d'être vieux, tout bossué de tourelles, chargé de superstructures, à ce point qu'on se demande par quel miracle ils tiennent sur l'eau, et dont on favorise la visite à toutes les fêtes pour bien persuader le peuple de la grandeur de notre marine. Les canots remontent toujours de front par série. Deux commencent à prendre la tête et, au virage, se classent nettement premiers. On les voit redescendre à toute vitesse, emportés par le courant et la furie des hommes, s'enlevant à chaque coup de nage et marquant leur sillage comme un vapeur. les rames décochent des reflets, les avants luisent comme des haches, le bois et l'eau retentissent.
« Le République ! Le République !»
acclame soudain Florian.
« L'équipe à Jean-Marie !»
Le canot lâche par secousse son concurrent. On entend le patron qui jette en cadence pour entraîner ses hommes.
« Hardi ! Hardi !»
Au coup de canon, une clameur de victoire monte des poitrines. D'un seul mouvement, les avirons sont matés et, sur son air, la barque court jusqu'au cale. Déjà, le second coupe la ligne, puis les autres. C'est une mêlée d'embarcations, de voix, de rires, toute une agitation violente, une grosse joie puérile, particulière aux soldats et aux matelots qui sont de jeunes hommes vigoureux, sans souci du pain quotidien.
« Hé, Jean-Marie ! Tiens, Florent ! On est des bons, mon vieux ! Oh, c'est-il des poilus, les gars du République ! Envoie le kilo, goule en pente ! La reine, c'est à l'équipe, quoi ! »
Les torses fument au travers des maillots et les cous et les bras sont brillants de sueur. Quelques-uns s'essuient et mettent une vareuse. La plupart rigolent et boivent, insouciants de leur corps robuste et jeune. Des amis livrent des litres à plein panier. Il s'élève un rude fumée de mâles et de vinasses jusqu'au quai où les femmes regardent. On échange de lourdes galanteries, on se siffle, on s'appelle. Sans savoir comment Petit Pierre se trouve soudain dans un canot à trinquer avec les marins. Il boit avec orgueil à la bouteille qu'on lui passe, comme à un égal. Il touche les grands avirons, les jolies gaffes en cuivre. On l'appelle encore « Mousse » et il répond « Patron », ce qui fait rire autour de lui. Et puis, il débarque avec son frère et toute une bande. Depuis lors, il voit un tas de choses merveilleuses. Une vedette astiquée comme le chaudron de la mère Bernard, avec des tapis et un drapeau qui traîne à l'eau, et où on lui dit que se tient l'amiral. Un navire monumental qui sort par les grandes portes pour emporter dans des Amériques imaginaires ces gens qui agitent des mouchoirs sur le pont. Des canots automobiles qui volent à la crête d'une vague dans un ronflement. Des yachts furtifs, des torpilleurs, des nageurs. Et puis, sans cesse de la foule, du mouvement. Des auberges où l'on braille, des marins qui le remorquent à leurs bras. Encore des auberges et du feu partout dans la nuit, de la pétarade, du feu qui monte dans les étoiles, qui embrase l'eau, de la musique, des cris. Plus rien pendant longtemps. Un trou dans l'existence. Petit Pierre dormait pesamment sur un tas de voiles à bord du laissez-les-dire. Un mouvement très doux berçait le sloop. Le flot clapotait le long de la coque. Petit Pierre rêvait. Il est embarqué sur un grand navire qui le roule à la mer depuis des mois et dans le sillage jouent des monstres marins qui ont la tête barbue de Tonnerre, le baigneur. Il double le Cap Horn, emmitouflé dans les maillots tricotés par sa mère. L'eau gèle sur les vergues en lames claires. Puis, il aborde une terre chaude où l'on vit le torse nu avec des sauvages, des singes et des perroquets sous des arbres qui donnent de la farine et du lait. Bientôt, un vaisseau de guerre arrive, tire le canon et organise des fêtes pour distraire les équipages. Il joue à l'aviron avec les marins de la flotte. Il est vainqueur et l'amiral l'emmène dans son canot à bord du cuirassé pour le festoyer. Toute la nuit, on boit et on chante. Il écoute la chanson et reprend le refrain. « Eh, Rikiki, nous voilà partis. Si les vents sont bons, demain nous partons. » Mais brusquement, il reçoit une taloche. C'est son père qui l'empoigne et le rentre à la maison. Petit Pierre s'éveillait en sursaut, avec une sensation douloureuse dans le dos.
« Eh, petit saligot, t'en avais une cuite hier soir. Si je t'avais point ramené, pourtant !»
Il essaya de se redresser, mais la tête lui fendait et il retomba sur les voiles en clignant des paupières. Au-dessus de lui, il y avait un carré de lumière pâle, la face ronde du père Clémotte et quelqu'un d'invisible qui marchait sur son crâne. Où était-il? Pourquoi la fenêtre habituellement devant ses yeux paraissait-elle au plafond? Et qui chantait à cette heure-ci dans le village? « Eh, Rikiki, nous voilà partis. Si les vents sont bons, demain nous partons. » Il écouta avec effort. Des voix écorchées mâchaient sa chanson. « Eh, Rikiki, nous voilà partis. Si les vents sont bons, demain nous partons. » Du coup, il se hissa hors du panneau et vit de lanterne dans l'aurore grise autour de lui, des barques muettes, et, sur le quai, une ligne de matelots ivres qui s'égosillait en s'étayant pour avancer.
« Ben quoi, mousse, la gueule de bois !»
Julien Perchet grimaçait amicalement en passant sa main paralysée dans sa toison rousse. Ici et là, des hommes sortaient des barques, observaient le ciel et marchaient sur les ponts. Le jour filtrait sous des nuages bas, ourlés, à l'est, de mauve très fin. Les choses avaient de la couleur dans la lumière sans éclat. L'air était neuf. La ville dormait. Les pavillons tombaient le long des drisses. Des fonds de lanternes brûlées pendaient aux guirlandes. Une tribune était ridicule dans la sérénité du matin. Au-delà des écluses, un fouillis de mâtures vernies brillait doucement. Un vapeur siffla, et son cri traîna longtemps, comme une écharpe. Puis, une sonnerie vibra, métallique, impressionnante dans le calme, et le drapeau français parut en haut d'un mât. Petit Pierre songea soudain à Florent, qu'il avait perdu dans la nuit, et se mit à rire, sans savoir pourquoi. Puis, il cassa la croûte avec les hommes et avala deux verres de vin.
« On va mettre à la voile, les enfants !»
Le laissez-les-dire appareilla et sortit lentement de l'avant-port jusqu'au moment où il tomba dans le courant vaseux de l'estuaire qui l'entraîna. Sur les cuirassés, mouillés en grande rade, des matelots défilaient au son du tambour et du clairon, comme dans une caserne. Petit Pierre regardait la ville merveilleuse qui s'éloignait rapidement de lui, avec ses cheminées, ses mâtures, sa grue gigantesque. Le laissez-les-dire trouvait du vent dehors et fuyait plus vite. Ce fut par le travers de Saint-Gildas que le Flèche engagea dans un changement d'amure. L'équipage regardait en l'air quand Petit Pierre empoigna le mât et grimpa lestement jusqu'à la pomme. Là-haut, l'amplitude des oscillations menaçait de l'arracher. Au-dessous de lui, la barque n'était plus qu'une planche étroite. Il descendit dans les acclamations.
« Bravo, le mousse, bravo! Je te garde à bord, si tu veux, » dit Perchet.
Rouge de joie, Petit Pierre accepta follement.
« Oh oui, oui !»
À l'herbaudière, comme il aidait à carguer la voilure, il fut surpris de retrouver son père qui l'appelait sur la cale. La mère Bernard était là, aussi, toute bouffie de satisfaction.
« T'as fait bon voyage ?» « As-tu dormi au moins, hein ? Et Florent ? Il est bien, Florent ?»
Mais de la chaloupe, Petit Pierre leur criait obstinément.
« C'était beau ! Ah, c'était beau ! Il n'y avait que des marins, que des bateaux, et des grands, grands, qu'auraient pas tenu dans le port !»